Radio Kapi. Oh, Kapi. Patience Galola Bananga à la présentation.
Au sommaire de ce journal, les léopards de la RDC qui affrontent demain mercredi 7 février les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN dénoncent les tueries dans la partie est du pays. Cédric Bakambu demande aux médias de s'intéresser à ce qui se passe en RDC. Le premier ministre Sama Lukonde invite les milliers d'investisseurs à capitaliser sur les atouts qu'offre la RDC dans la transition énergétique en cours à l'échelle mondiale dans les secteurs de batteries électriques et des énergies propres. Il l'a dit dans son allocution lors de l'ouverture de la 30e édition de la conférence minière Daba Mining ouverte hier lundi à Cape Town en Afrique du Sud. L'invité de ce journal est Maître Dominique Kambala, ancien bâtonnier du Kassai Central. Il parle de l'ouvrage écrit par lui, intitulé « Traitement des contentieux des élections provinciales de 2018 par la Cour d'appel du Kassai Central ». Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, sachez que l'interdiction stricte de cumul des fonctions et mandats conformément à la loi reste en vigueur. C'est en ces termes que le Conseil d'État se prononce sur la requête introduite par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, cherchant à permettre à certains élus de gérer les affaires courantes en attendant l'installation du nouveau gouvernement. La plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC précise que tout choix en faveur des nouveaux mandats électifs entraîne automatiquement et définitivement la cessation des fonctions ou mandats actuels, à l'exception du président de la République. Cette institution insiste sur les caractères stricts de cette interdiction visant à éviter la confusion des rôles, le dédoublement des paiements aux dépenses du Trésor public, à prévenir les conflits d'intérêts et à maintenir l'équilibre des pouvoirs énoncés dans la Constitution et d'autres lois de la République. Par ailleurs, sachez que la Cour constitutionnelle a débuté hier lundi l'examen des contentieux électoraux. Siégeant en matière des contentieux des résultats aux élections législatives nationales, la Cour a donc ouvert ses audiences publiques relatives au recours des candidats invalidés par la CENI. Plus de 1000 requêtes en contestation des résultats avaient été reçues par la Cour, mais seulement 64 dossiers, principalement ceux des candidats dont les suffrages sont annulés ou invalidés, ont été examinés pour ces débuts des audiences à une seule chambre composée de 8 juges. Parmi les requêtes analysées au cours des audiences d'hier lundi figurent celles du gouverneur Gentil Ngobila, Colette Tiomba, Évariste Boshab, Singi Pouloulou, Charles Mboutamountou, Noël Botakile et bien d'autres candidats dont les résultats ont été annulés par la commission électorale pour fraude. Je le disais au sommaire, des joueurs de la RDC engagés à la Coupe d'Afrique des Nations et qui affrontent demain mercredi 7 février les éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale s'expriment pour dénoncer les tueries dans la partie est de la RDC. Cédric Bakambu demande aux médias de s'intéresser à ce qui se passe en RDC. René Capita.
Tout le monde voit les massacres à l'est du Congo, mais tout le monde se tait, dit-il. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN et pour mettre en avant ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas de petits gestes. Paix pour la RDC, écrit-il sur son compte X, ancien Twitter. Pour Chancel Mbemba, il est important que le pays retrouve la paix et que toutes les victimes des atrocités dans la partie est et leurs familles retrouvent la tranquillité d'esprit. Les léopards avaient déjà soutenu, avant le début de cette compétition, les victimes des violences dans la partie est de la RDC à travers le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Entre-temps, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réuni hier lundi dans la soirée le Conseil supérieur de la défense pour évoquer des questions sécuritaires à travers les pays, notamment au Nord Kivu. C'est ce qu'a rapporté Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. L'armée met également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises, a déclaré Jean-Pierre Bemba à l'issue de la réunion. Le Conseil supérieur de la défense a appelé la population à l'apaisement face aux rumeurs diverses en rapport avec l'agression de la République démocratique du Congo. Pour Jean-Pierre Bemba, je le cite, les FRDC font un travail extraordinaire. L'ennemi subit d'énormes pertes. Le Conseil supérieur de la défense a demandé à Félix Tshisekedi d'élever les moratoires sur la peine capitale en ce qui concerne les questions des traîtrises au sein des forces de défense et de sécurité. Dans le même chapitre, mutisme et laxisme de la communauté internationale face aux tueries et autres sortes de violences, impunité totale pour les pays agresseurs de la RDC. Les mots n'étaient assez forts pour les acteurs de la société civile du Nord Kivu pour qualifier devant le sous-secrétaire général des Nations Unies la guerre qui endeuille les populations de cette partie de la RDC. C'était hier lundi au cours d'un entretien à Goma. En réaction, Jean-Pierre Lacroix a mis en exergue la résolution de cette crise par les mécanismes régionaux. Les points dans ce reportage de Gabriel Wamenia, rendu par Baya Chamala.
Face au numéro 2 onusien, les acteurs de la société civile du Nord Kivu expriment leurs profondes inquiétudes par rapport à ce qu'ils qualifient de silence de la communauté internationale au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans la province. Ils fustigent l'indulgence dont jouit le Rwanda, pays agresseur de la RDC. John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, rappelle qu'il y a eu des rapports des experts onusiens qui ont désigné nommément le Rwanda comme pays agresseur de la RDC. Récemment, les Nations Unies ont demandé au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC, mais cela n'a jamais été fait, affirme-t-il. Nous, en tant que paysans, nous disons que cette guerre dont nous sommes victimes est une guerre de complicité. Nous disons que le Rwanda doit être soutenu quelque part, ajoute-t-il. Dans sa réponse à ses interlocuteurs, Jean-Pierre Lacroix explique « Il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent, qui s'engagent pour faire prévaloir la paix dans la région des Grands Lacs. Nous sommes en contact avec ces pays. Vous connaissez le processus de Luanda avec l'initiative de l'Angola. Vous connaissez le processus de Nairobi visant le désarmement des groupes armés. Les Nations Unies, en commençant par le secrétariat général, ne sont pas ceux qui décident des sanctions. Ce sont des États membres. C'est une question à adresser aux États, dit-il.
Toujours dans ces chapitres, les États-Unis appellent tous les groupes armés non étatiques, y compris le M23 sanctionné par les États-Unis, à cesser les hostilités et à déposer les armes. Dans un communiqué rendu public hier lundi par son ambassade en RDC, Washington appelle de nouveau les Rwandais à cesser de soutenir le M23 et à immédiatement retirer les forces armées rwandaises du territoire congolais, étant donné que leur appui à ces groupes armés n'a servi qu'à déstabiliser davantage l'est de la RDC. Les États-Unis soulignent depuis longtemps qu'il est primordial que tous les États respectent la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. Toute affirmation contraire est fausse, indique le communiqué. Les États-Unis affirment par ailleurs qu'ils demeurent résolus à travailler avec leurs partenaires régionaux pour mettre un terme à l'escalade de la violence dans l'est de la RDC. Et puis la notabilité de Rutshuru exprime son inquiétude quant à l'avancée des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. De Bunagana dans les Rutshuru, en passant par les Nyiragongo et aujourd'hui dans les Masisi, l'ennemi ne fait que gagner du terrain. Cela à la grande désolation des habitants, affirme Isaac Kibiri, l'un de ses notables. Il demande au chef de l'État, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de s'investir personnellement sur cette question pour que la paix reviennent dans cette partie du pays. On l'écoute au micro de Denise Lukeso.
C'est le même mode opératoire comme en 1998. Ils veulent prendre d'abord les liens stratégiques. Nous avons tellement peur au ventre parce que nous constatons comme quoi, avec cette avancée de M23 qui a reçu des renforts avec des moyens matériels très conséquents, cherche comment asphyxier Goma. Alors cela ne promet pas en tout cas la sécurité de l'Est. Alors ce que nous demandons au gouvernement, c'est de pouvoir savoir pourquoi il y a des replis stratégiques. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le mauvais encadrement des éléments militaires qui sont sur la ligne de front, ou bien il y a une trahison. Donc nous demandons qu'il y ait une enquête le plus tôt possible de la présidence pour que le président ne puisse pas être snobé pendant que l'ennemi est en train de se réorganiser.
De leur côté, les femmes leaders du Nord Kivu recommandent au chef de l'État de trouver une solution urgente pour mettre fin à cette guerre contre les rebelles du M23. Mais aussi, elles recommandent la récupération de toutes les entités occupées tout en sécurisant celles qui ne les sont pas. Selon elles, les FRDC sont en difficulté pour reconquérir les entités passées sous l'occupation de ces rebelles. Elles font le constat des déplacements massifs des populations en raison des bombes qui sont larguées sur les espaces occupés par les civils et qui font plusieurs morts et blessés. Dans leur déclaration rendue publique hier dimanche, ces femmes souhaitent voir le chef de l'État s'impliquer davantage pour son second mandat aux problématiques liées à la paix, la sécurité et la cohésion sociale comme sa priorité. Suivez cet extrait de leur déclaration lu par Madame Nelly Lumbulumbu, coordinatrice de la plateforme Sauti la Mama Mukongomani, choisie par Bernardine Djambou.
Nous, femmes leaders militantes pour la promotion de la paix, la participation politique des femmes et des filles dans les instances de prise de décision, souhaitent que le chef de l'État, ce nouveau mandat lui accordé, mette en priorité les questions de la paix, la sécurité, la cohésion sociale ainsi que la participation égalitaire hommes, femmes, filles, garçons et des groupes marginalisés. Recommandant ce qui suit au chef de l'État de se rassurer que les moyens logistiques de l'armée sont disponibles sur les lignes de front et que les militaires au front sont bien traités. De prendre les mesures pour la protection des personnes déplacées internes et de subvenir à leurs besoins vitaux. De procéder à la revue des engagements, accords qui sont parmi les causes des conflits actuels. Rappelant au chef de l'État sa détermination de mettre fin à cette situation qui continue à nous endeuiller et de prendre des mesures solides, urgentes afin de nous permettre de vivre sur des espaces sûrs et sécurisés.
Autre nouvelle, interpellés le 3 février par l'Agence nationale des renseignements, les activistes des mouvements citoyens dont Bienvenue Matumou et Fred Bauma ont été relaxés hier lundi dans la soirée. Détenus par l'ANR depuis le samedi 3 février, ces acteurs de la société civile étaient interpellés lors d'une manifestation pour dénoncer l'occupation de Bunagana par les terroristes du M23 depuis 600 jours. Pendant leur détention, ils affirment avoir été interrogés sur une réunion qui se serait tenue à Kinshasa, au CEPAS, les 4 et les 5 janvier. La réunion avait eu lieu à CEPAS avec les délégués d'un certain nombre des partis politiques de l'opposition. Situation sécuritaire à Kimpese au Congo central, le gouverneur des provinces Guy Bandou Dungidi est rappelé à Kinshasa pour consultation. Cela suite aux incidents meurtriers qui ont eu lieu dans la cité de Kimpese. C'est ce que révèle les rapports finaux de la commission interministérielle instituée par le gouvernement à la demande du président de la République. Objectif, faire la lumière sur ces incidents ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants le 29 et le 30 janvier dernier. Dans ses rapports, la dite commission dit avoir relevé plusieurs manquements dans les chefs des autorités, tant provinciales que locales, tels que la passivité et les manques de sens d'anticipation de celles-ci, malgré les rapports sécuritaires leur transmis par les services. Les points avec Nana Pluriche Mambou.
La délégation interministérielle était composée du ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela, du vice-ministre de l'Intérieur Moli Pemandongo Jean-Claude et celui de la Justice Mamboula Outadé. Cette délégation s'est entretenue avec les autorités politico-administratives locales et les forces vives de la cité de Kimpese en territoire de Songololo pendant 3 jours, soit du 1er au 3 février 2024. De ces échanges, il dégage le constat tel que l'absence d'une bonne coordination du point de vue sécuritaire par les autorités politico-administratives provinciales, l'absence de toute initiative de répression des auteurs des crimes ici décriés par les parquets civils comme militaires, la fermeture depuis plus de 12 ans de la cimenterie nationale SINAT, principal employeur de la population réduite depuis lors au chômage, ainsi que le laxisme de certains éléments de la police vis-à-vis des délinquants ayant créé la méfiance dans les chefs de la population. Dans son rapport final, la commission décide les rappels immédiats du gouverneur de province à Kinshasa pour consultation et de l'administrateur du territoire de Songololo. La mise à la disposition de la justice militaire, des éléments des FRDC et ceux de la police qui ont ouvert le feu sur la population et l'organisation imminente des audiences foraines. Les rappels à Kinshasa du commandant commissariat territorial ad intérim de Songololo pour des mesures disciplinaires par les commissariats généraux de la police. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
La troisième édition de la conférence minière Indaba Mining s'est ouverte hier lundi à Cape Town en Afrique du Sud. Présent à ses assises, le premier ministre Jean-Michel Samalukonde effectue une mission séduction face aux investisseurs. Dans une allocution à l'ouverture du forum, il invite à investir en RDC en rappelant que les pays détiennent des gisements stratégiques pour la transition écologique à venir. Cynthia Bachizi Nabizana.
Le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a invité les milliers d'investisseurs présents à capitaliser sur les atouts qu'offre la RDC, un pays minier par excellence qui aura un rôle de premier plan à jouer dans la transition énergétique en cours à l'échelle mondiale dans le secteur des batteries électriques et des énergies propres.
Avec des réserves à hauteur de 407 millions de tonnes d'oxyde de lithium en territoire de Manono, dans la province du Tanganyika. Notre pays se place aujourd'hui comme la meilleure destination d'Afrique pour l'extraction de ce minerai. La République démocratique du Congo poursuit courageusement l'implantation et le développement de la chaîne des valeurs des substances minérales, avec un accent particulier sur la transformation locale des produits miniers marchands.
In fine, Jean-Michel Samalukonde se dit conscient des contraintes, surtout énergétiques, qui affectent l'essor d'une industrie minière congolaise. D'aucuns pensent que cela constitue une opportunité qui s'offre à tout investisseur intéressé par ce secteur économique dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant pour ce secteur véritable porteur de croissance économique.
Actualité internationale.
Au Soudan, le chef de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a lancé une mise en garde contre un possible flux des migrants soudanais vers l'Europe si un accord de cessez-le-feu n'est pas rapidement conclu entre les parties en conflit au Soudan. La situation humanitaire critique, marquée par plus de 9 millions de déplacés internes et 1,5 million de réfugiés ayant fui les combats, risque de pousser les populations vers la Libye, la Tunisie et éventuellement la Méditerranée. Il a également souligné les difficultés des pays voisins du Soudan tels que le Tchad, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et l'Éthiopie qui ont leurs propres fragilités et ne seront pas en mesure d'apporter une aide suffisante aux réfugiés.
L'invité.
Traitement des contentieux des élections provinciales de 2018 par la Cour d'appel du Kasaï central, c'est le titre d'un ouvrage écrit par Maître Dominique Kambala. Invité de Radio Kapi, cet ancien bâtonnier du Kasaï central relève certaines faiblesses dans les traitements du contentieux qui, espère-t-il, pourront permettre d'améliorer la gestion des dossiers de 2023, surtout sur la question de l'administration, sur les éléments de preuve présentés par le parti. Maître Dominique Kambala s'entretient avec François Kadima.
Bonjour Maître Dominique Kambala.
Radio Okapi, bonjour.
Pourquoi avoir décidé de publier cet ouvrage alors que ce cycle électoral a laissé la place à un nouveau après le scrutin de 2018?
Effectivement, je viens de publier sur les éditions Amazon un ouvrage intitulé « Le traitement du contentieux des élections provinciales de 2018 par la Cour d'appel du Kasaï central faisant Office de Cour administrative d'appel. Quelle est la motivation? Pourquoi nous avons décidé de pouvoir publier cet ouvrage alors que le cycle électoral de 2018 est déjà passé? Vous avez raison de poser cette question, mais il me semble humblement que un cycle électoral, c'est une expérience. Le traitement du contentieux électoral, c'est une expérience. Et que donc, cette expérience du juge électoral de 2018 peut servir d'expérience en termes de leçons au juge qui va gérer le contentieux électoral en 2023.
Dans cet ouvrage, vous relevez les faiblesses dans le traitement du contentieux électoral de 2018 par la Cour d'appel du Kasaï central. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été bien géré dans le verdict rendu par cette juridiction?
Lorsque nous avons fait l'analyse de 22 arrêts rendus par la Cour administrative d'appel, nous nous sommes rendus compte que 17 arrêts ont connu des décisions concernant uniquement la forme et que donc les requêtes ont été déclarées irrecevables pour différents motifs tirés de la forme des recours, motifs pris par exemple pour précocité, pour prématurité,
pour forclusion ou pour défaut de qualité étalée et déconstruit en plusieurs branches. Nous avons aussi relevé la faiblesse au niveau de l'interprétation de certaines dispositions légales, notamment la question liée à la demande de mise en disponibilité. La Cour d'appel revient sur une question du contentieux des candidatures alors que cette étape est déjà dépassée et que les partis viennent devant la Cour d'appel pour une contestation des résultats. Il en est de même de la question d'interprétation du statut du suppléant dans le cadre du processus électoral. Donc, cette question d'interprétation nous a amené à élever notre réflexion sur l'interprétation de la loi électorale. Il y a aussi la question de l'administration de la preuve. Et là, nous avons trouvé qu'il y avait un maillon faible parce que les partis amènent leurs prétentions. Comme vous le savez, la CENI ne sait pas mettre à la disposition des partis tous les procès-verbaux. Or, il est des principes en droit que celui qui allègue un fait doit le prouver. Beaucoup des partis sont venus sur les 5 recours formulés au niveau, examinés au niveau du fond. La Cour a rejeté ce recours parce qu'il n'y avait pas des éléments de preuve. Or, la CENI ne met pas à la disposition des partis les éléments de preuve. Ce qui fait que la Cour d'appel n'a pas pu faciliter la tâche aux partis dans le cadre de l'administration de la preuve.
Qu'est-ce que vous recommandez à la Cour d'appel du Kada Central appelée à statuer sur les contentieux électoraux de dernières élections?
Alors, qu'est-ce que nous pouvons préconiser en ce qui concerne le traitement du contentieux en cours avec la révision de la loi électorale et la manière dont la commission électorale a fonctionné et n'a pas pu mettre à la disposition des partis les différents procès-verbaux, la même question de l'administration de la preuve sera cruciale en ce qui concerne le traitement du contentieux en 2023. Or, il y a maintenant l'obligation faite à la Cour, d'abord à la CENI de transmettre les procès-verbaux et à la Cour de faciliter la tâche dans le cadre de l'administration de la preuve. Nous espérons que cette fois-ci, la Cour et les instances judiciaires vont faciliter la tâche aux partis dans le cadre de l'administration de la preuve.
Maître Dominique Kambala, merci beaucoup.
François Kadima s'entretenait avec Maître Dominique Kambala, bâtonnier honoraire du Kasaï central. Et c'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Mise en onde par Polydor Basunga, supervision et coordination, Pele Kipelamondo et Alain Irung Mouchinj. À la présentation, Patience Ngalula Banangé. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.